de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil?
Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Alors nous sommes en 2025, mais nous on a fait le choix de retourner en 2024. Alors on va notamment bien parler des grands succès de 2024, mais on va surtout bien parler de nos petits succès, c'est-à-dire les films que nous on a appréciés lors de cette année, des films que vous pouvez alors soit déjà retrouver sur les plateformes ou en VOD ou sur DVD, ou soit il vous faudra quand même attendre un petit moment pour que ce soit possible. Mais en tout cas, on va vous donner tous nos choix. Voilà, c'est une émission un peu spéciale aussi avec un blind test qui va sélectionner 5 films de 2024, des films qui, pour la majeure partie, sauf un qui s'est approché des 500 000 spectateurs, mais des films qui ont quand même remporté un vif succès dans les salles. C'est ainsi que débute la première émission de Cinérama en 2025.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinérama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Alors on sait bien qu'on a changé d'année, évidemment, mais on va faire un peu le bilan de cette année 2024. Et avant qu'on vous donne les 3 films que nous, on ressort de l'année écoulée, je vais quand même vous demander si vous connaissez le top 5 des films en 2024, les entrées donc en salle.
Alors je vais répondre, je vais être très mauvais à cette question parce qu'en fait, moi, la plupart des films que j'ai adorés cette année ont été tous des fours. Ah oui. Incroyable au box-office, donc je vais m'abstenir.
Alors, je pense que personne n'aura choisi films du top 5.
Il y a peut-être celui d'Artus.
Oui, c'est le premier.
Un petit truc en plus. Ouais.
Ça, c'est le premier. Un petit truc en plus. Le deuxième, est-ce qu'il est français déjà? Est-ce qu'il est étranger, d'après vous?
Étranger, sans doute.
Il est français.
Le deuxième?
Eh oui.
En fanfare?
Non,
c'est trop récent.
Bah non.
Trop récent, mais
non, non, là, ouais. On parle d'une grosse production qui a coûté 35 millions.
Le Comte de Monte Cristo.
Oui, le Comte de Monte Cristo, bravo. 9 millions d'entrées, un peu plus de 10 millions pour Artus, presque 11 millions. Le troisième, est-ce qu'il est... Bon, allez, je vous le dis, il est étranger et il concerne les enfants et les adultes.
C'est Vice Versa 2?
Oui, c'est ça. Vice Versa 2. Et puis, alors en quatrième position, c'est à nouveau un Français qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps, qui a plutôt eu une mauvaise presse, mais moi que j'ai vraiment défendu ici dans cette émission.
L'amour ouf.
Oui. Film de Gilles Lelouch qui poursuit un peu sa carrière. Et puis, le dernier, c'est un film d'animation et ce sera celui d'un concurrent de Disney. Moi, Moche et Méchant 4. Voilà. On a fait le top 5 donc de l'année 2024 au niveau des entrées. Alors qui veut commencer d'ailleurs à parler de ces 3 films qu'il a appréciés?
Je veux bien commencer.
Allez.
Alors moi je vais faire une petite ça va être un peu étrange pour commencer puisque je parlais d'un film qui n'est pas sorti en salle.
Ah bon?
Eh oui.
Mais c'était pas dans les règles du jeu.
Ah, les règles du jeu, c'est les 3 meilleurs films de l'année.
C'est
une production, alors c'est pas du tout une production Netflix. D'ailleurs, c'est un scandale. C'est un film qui a été présenté à la Mostra de Venise et qui s'est retrouvé au fin fond du catalogue de Netflix et qui est sorti au mois d'avril l'an dernier, qui s'appelle Adagio de Stefano Solima. Et pour moi, c'est vraiment, c'est la claque de l'année en fait. Et Solima est vraiment pour moi l'un des grands réalisateurs italiens contemporains. Stefano Solima a aussi tourné aux États-Unis, puisqu'on lui doit notamment Sicario 2 et puis un autre film qui s'appelait Sans aucun remords, qui est aussi un film qui est passé directement sur une plateforme. Alors là, il revient donc avec Adagio, film noir tragique et complexe. C'est vraiment une œuvre funèbre, alors qui porte bien son titre. Cela dit, ne vous laissez pas rebuter par une sorte de lenteur un peu moite, c'est vraiment un polar urbain imprévisible, qui est une véritable claque narrative et visuelle. Alors, c'est un peu une histoire de masculinité en déroute. là, où le cinéaste, il sonde l'âme torturée de ses personnages et vraiment, il livre une épopée romaine. J'ai rarement vu Rome aussi bien filmée. Hein. C'est un film d'une densité impressionnante et qui rend un hommage dans son dernier tiers à l'un de mes films préférés, l'un de mes nombreux films préférés, mais comme il est ciné De Palma, il y a une séquence dans la gare qui évoque beaucoup l'impasse de Brian De Palma. Voilà. Et Stefano Solima, je dirais que c'est le digne héritier de son père, hein, Sergio Solima, qui était un grand réalisateur de western avec Colorado, Le Dernier Face à Face, et aussi l'un des polars que je préfère aussi de tous les temps, qui s'appelle Revolver.
Si, d'accordo l'incontro. Un'emozione che ti scoppia dentro.
Adagio, donc, on peut le voir sur la plateforme Netflix. Alors, qui veut poursuivre ? Alors, c'est toi, Guillaume.
Oui, en fait, je suis un petit peu dans le même cas que Manu. Alors, moi, il est sorti au cinéma, hein, mais il est sorti que pour l'instant dans certaines salles de cinéma, mais en très grande pompe. Et il a rejoint la télévision assez vite et il va sortir en physique, donc l'année prochaine. C'est le Napoléon d'Abel Gance, la nouvelle, version, hein, puisque maintenant, ça s'appelle Le Napoléon vu par Abel Gance. Hein, donc, c'est un film de 1927. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu de la triche, mais pas de la triche, parce qu'en fait, c'est mon film préféré de 2024, mais il faut savoir que donc le film qui a presque 100 ans, c'est pas qu'une simple restauration, c'est une véritable résurrection qu'a permis le travail de restauration incroyable de Georges Mourier. Hein. Donc cette version, elle est reconstruite à travers la version Apollo du film. Elle est à peu près inédite depuis 1927 et on n'a jamais vu le film aussi beau. Hein, alors ça tombe bien parce que c'est pas qu'un monument du cinéma français. Hein, pour moi, je vous le cache pas, pour moi c'est le plus grand et le plus beau film de tous les temps. Hein. Parce qu'il y a pour moi une manière à la fois technique, narrative et philosophique de concevoir le cinéma qui est assez ultime et je pense un peu indépassée. Hein. Donc Abel Gance disait que le cinéma c'est la musique de la lumière, je pense que vous avez la démonstration absolument éclatante. Hein. Et c'est un travail phénoménal qui a convié autant l'image que le son parce qu'il y a eu aussi toute une bande-son qui a été faite pour l'occasion. C'est pas rien, il y a 7 heures de film, donc 7 heures de musique. Donc ça a été diffusé entre-temps depuis les salles, c'était diffusé sur France Télévisions. Je crois que c'est encore disponible en replay à l'heure actuelle. Et il y a normalement une très belle édition en physique qui va bientôt suivre.
Voilà, donc nous parlions de Napoléon d'Abel Gance, qui est une grosse ressortie. Sophia, ton film ?
Oui, alors pour ma part, je souhaitais mettre à l'honneur un film français en tant que premier film sélectionné dans les préférés de l'année et pourquoi pas d'une réalisatrice. Alors j'ai hésité parce qu'entre celui de Noémie Merlan, Les Femmes au balcon, et celui de Laetitia Doche, Le procès du chien, il y en a plusieurs qui m'ont séduite cette année, mais puisqu'il faut choisir, j'ai finalement retenu Vingt Dieux. Donc c'est un film dont tu nous as parlé récemment dans l'émission, Manu. Il s'agit donc de la première réalisation de Louise Courvoisier, qui a fait un très beau démarrage en salle pour un film avec ce type de distribution. Une épopée fromagère, touchante, appuyée donc sur des prestations qui sont authentiques, avec un jeune casting très frais, très terroir. Et un film, comme tu le disais aussi Manu, qui aurait pu prendre un tournant un peu misérabiliste ou assez sombre, mais qui y résiste pour proposer un récit plus lumineux que ce qu'on aurait pu attendre.
Anthony, c'est ça ?
Totone.
Tu sais conduire un camion ?
J'ai déjà conduit celui de mon père.
C'est toi le nouveau ?
Oui.
T'es en retard ? Allez, grouille ! Faut pas que ça en foutre !
Adieu ! T'es pas doué, toi.
T'habites tout seul ?
Avec ma sœur.
Alors ?
Voilà, Vingt Dieux, un film de fin d'année qui sera peut-être un peu difficile de trouver sur un format physique. Alors moi, mon premier film de 2024 que j'ai choisi, c'est Riddle of Fire de Weston Razzouli. L'histoire de jeunes adolescents qui doivent faire une tarte pour pouvoir avoir le code de la TV qui leur permettra de jouer un super jeu, de passer un super moment. Mais voilà, à mesure qu'ils recherchent les ingrédients, notamment un œuf tacheté, ils semblent s'écarter de leur but. Ils sont entravés par des adultes qui ne leur veulent pas toujours du bien. Alors le récit est incroyablement bien mené. Les jeunes tels qu'ils sont campés, ivres de liberté n'existe vraiment avec leur moto improbable. C'est un conte que les adultes tentent de torpiller sans y parvenir vraiment. C'est du cinéma indépendant américain et je pense que c'est la meilleure version du cinéma indépendant américain, je trouve. Voilà, un film plein de liberté. On passe peut-être au deuxième film avant de faire le blind test 2024. Alors Manu, ton deuxième film ?
Alors, sans surprise, hein, puisque j'en avais parlé assez longuement ici, hein, c'est le dernier film d'Alain Guiraudy, Miséricorde. Hein. Vraiment, ouais, moi, j'ai été totalement enchanté. Et puis, je trouve que là, Guiraudy, qui faisait quand même des films, on va dire, un peu difficile d'accès jusque-là. Là, il combine, il mélange en fait sa radicalité avec quelque chose quand même de plus... alors, je ne vais pas dire de plus solaire, parce que le film est quand même un peu sombre, hein, mais de beaucoup plus accessible. Alors voilà, moi, je dirais que c'est un film merveilleux où le désir, bah, il déborde de partout, mais il ne se consomme jamais. Voilà, la mécanique du scénario, je la trouve assez parfaite. Le film est vraiment très bien mis en scène, hein, avec des ambiances nocturnes assez étonnantes. Je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire de plus. C'est un film, une sorte de polar mystique, burlesque, rural. Oui, ce qui se passe dans le Tarn.
Non, c'est en Aveyron, mais voilà, en tout cas, c'est par là.
C'est aussi tourné dans le Tarn. Il triche, en fait.
Bon, moi, il m'a dit Aveyron, je l'avais rencontré.
Ah, d'accord. En tout cas, on est quelque part entre un Mocky en forme, le Jacques Becker d'un vieux film qui s'appelait Goupy-Main Rouge, et puis quelque part aussi Chabrol, un Chabrol plus prolo, je dirais, quelque part. Voilà, donc, et puis on a la plus belle érection horizontale de l'année, ça faut le dire, hein, une brochette d'acteurs incroyable, et puis la confession d'un curé qui profère un discours qui est juste, pour moi, qui a été un bonheur, quelque chose de... Enfin, je trouve que ce film est vraiment magnifique. Mmh. Et il a rencontré, alors, vu le film, vu la production, qui est quand même pas... C'est pas un gros film, il a rencontré quand même un certain succès.
Oui, c'est très net, et je pense qu'il sera très présent au César.
Où est-ce que tu étais encore passé toute la journée ?
J'étais avec le curé.
Bon, lui, il ferait mieux de dire des messes plutôt que de se promener.
Je peux rester ?
Ce soir ?
Même quelques jours ? Bon, enfin, tu fais ce que tu veux.
Il y a toujours la chambre de Vincent.
Pourquoi tu restes ici ? Tu l'aimes bien, hein, Mère ?
Ouais. Il y a quelqu'un ?
Bon, on se voyait un peu à l'époque. Bon, on se fréquentait pas beaucoup, hein. Et moi, je t'appréciais. Il va pas falloir que tu t'installes. Ça, c'est pas à toi d'en décider. Tu me lâches maintenant.
C'est comme ça que vous cherchez des champignons ?
Guillaume.
Alors moi, c'est Ir de Robert Zemeckis qui a été mon second coup de cœur. Je reste donc dans les réalisateurs qui ont su conjuguer technique pointue, hein, innovation étourdissante, et puis grammaire cinématographique, hein, poussée dans ses derniers retranchements. Moi, je trouve que Zemeckis, il a su s'emparer d'un roman graphique déjà très audacieux, hein, pour en faire un film de cinéma vraiment nul autre pareil. Hein. On est assez loin du film concept qui s'arrête à son idée maligne de départ, parce qu'il y a, grâce à ce voyage à travers le temps et l'humanité en plan fixe, il y a toute une métaphore de l'art cinématographique. Le réal, il sait remettre au centre de la réflexion l'importance du regard, j'ai envie de dire, de l'homme, de la caméra, et de l'importance d'un cadrage, hein, au cinéma, hein, qui est témoin de certaines vérités, parfois extraordinaires et très souvent banales. Hein. J'ai trouvé ça absolument captivant, c'est super beau, c'est très émouvant, et pour moi, c'est un tour de force narratif vraiment, vraiment admirable.
Et c'était un film qui est sorti en toute fin d'année. Hein,
oui, assez récemment, en novembre. Ouais.
Tu sais, si ça te fait plaisir, tu peux rester toute la nuit ici.
Ir de Robert Zemeckis, c'est toi, Sophia.
Mais je te remercie, Vincent, d'avoir en tout cas parlé de Riddle of Fire. Comme ça, je ne le refais pas une seconde fois, mais c'est aussi un de mes préférés de l'année.
D'accord.
Donc, je vais prendre la tangente et je retiens Kinds of Kindness, donc le deuxième film de l'année de Yorgos Lanthimos, qui reprend encore ses personnages phares et chouchous, ceux qui étaient présents dans Pauvres Créatures, sortis plus tôt au début de l'année 2024. Donc, on retrouvait Emma Stone, Willem Dafoe, Margaret Qualley, qu'on voit d'ailleurs un peu partout, hein, en ce moment, chez le frère Cohen, dans The Substance de Coralie Farja, cette année, hein, notamment. Et puis, Jesse Plemons, donc lui qui a remporté un prix d'interprétation masculine pour son rôle dans le film de Lanthimos à Cannes. Ou plutôt, ses rôles, en fait, hein, puisque comme dans Les Nouveaux Sauvages de Damien Cifron, présenté à Cannes il y a quelques 10 ans auparavant, on a affaire à un film à sketch, avec une thématique déclinée à travers chacun de ses sketchs. Ici, la thématique, c'est l'emprise, et on retrouve tout le cynisme et cette patte très particulière qui caractérise le réalisateur conceptuel qu'est Lanthimos, qui retrouve un petit peu son style originel, après un écart quand même important avec Pauvres Créatures, sorti en début début d'année. Voilà, un film qui focalisait alors plus sur le voyage initiatique d'une protagoniste féminine dans un univers science-fictionnel baroque très coloré, à distance des autres réalisations plus précoces de Lanthimos, voilà, qu'on retrouve un petit peu plus dans Kinds of Kindness.
Alors moi j'aurais choisi Pauvre créature, mais finalement j'ai choisi Emilia Pérez de Jacques Audiard, un film qui m'a très impressionné parce que je n'en connaissais rien. J'apprécie pas particulièrement les comédies musicales, mais je trouve que celle-ci est plutôt bien enlevée, notamment par rapport au langage chorégraphique. Alors je suis incapable de juger de la place de ce film dans l'histoire de la comédie musicale, en revanche, mais j'aime le parti pris d'Audiard de vouloir raconter une telle histoire. Je comprends ses doutes d'ailleurs et le sentiment qu'il a eu que ça pouvait être avant tout un opéra plus qu'un film. Parce que c'est chanté et dansé et parce que le scénario semble filer le conte. Et l'idée d'un chef de narco qui change sa manière de penser à partir du moment où il a choisi de changer de sexe, moi je trouve cette bascule remarquable, d'autant que ça dit plein de choses aussi sur le Mexique avec son lot d'exécutions jamais résolues. Enfin voilà, je trouve que c'est un film très bien enlevé. Je sais que toi Manu, tu l'as profondément détesté. Tu peux en dire quelques mots parce qu'on est quand même un peu pressé.
Alors détester, c'est pas ça, je n'ai vraiment pas aimé le film. Alors le point positif, c'est que j'ai trouvé les 10 premières minutes remarquables. C'est quand même déjà pas mal.
Après sortez.
Voilà, non mais en fait moi je vais pas développer parce que je vais juste dire que j'ai un problème avec la mise en scène qui pour moi ne correspond pas au sujet. C'est-à-dire que pour moi c'est une mise en scène qui ressemble en fait à peu près à toutes les séries télé que l'on voit. C'est-à-dire que tout est filmé un peu en plan moyen avec... beaucoup de caméras portées à l'épaule, avec un rythme qui est un peu identique. Bref, je défie quiconque de reconnaître la patte de Jacques Audiard en regardant ce film. Voilà,
c'est-à-dire
on mettrait ce film sans savoir que c'est Jacques Audiard, je pense qu'on n'arriverait pas à reconnaître. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a un côté aussi opportuniste dans la manière dont il choisit les sujets. C'était déjà le cas quand il faisait Les Frères Sisters. Déjà, il dit qu'il n'aime pas le western, donc il fait un western. Là, il le dit ouvertement, il n'aime pas la comédie musicale. Et il fait une comédie musicale, et moi ça me gêne beaucoup. Et je trouve qu'à l'écran ça se voit, c'est-à-dire qu'on retirerait toutes les séquences musicales, le film se tient debout. Or pour moi une grande comédie musicale raconte une histoire à l'intérieur même de ses chorégraphies et de ses numéros musicaux. C'est même là où le récit se développe. Ça on le voit dans les grandes comédies comme la chanson sous la pluie ou même les films de Jacques Demy.
Et bien c'est noté en tout cas. Donc nous allons faire une petite pause avec le blind test des films 2024. Alors j'ai choisi des films quand même qui ont plutôt marqué l'année, c'est-à-dire qui ont fait quasiment plus de 500 000. Voilà. Allez, premier extrait, découvrir un film de 2024.
J'ai trouvé cette Bible dans votre cabine. C'est bien votre Bible, n'est-ce pas? Il y a votre nom inscrit dessus.
Oui, enfin, ce n'est pas encore un crime.
C'est vrai. Mais nous avons également trouvé à l'intérieur un ordre de mission signé de la main même de Napoléon. Et ça, voyez-vous, c'est un crime.
Attendez. Non, je vous jure, c'est la première fois que je vois cette lettre.
Si vous n'avez pas d'ennemi, qui a pu la glisser là?
Au large du Cap Corse, j'ai sauvé une jeune femme de la noyade.
Elle est venue vous remercier dans votre cabine?
Non, mais le capitaine Danglars l'y a enfermée, et elle n'en est sortie qu'à Marseille. Mais vous pouvez vérifier.
Trouvé.
C'est le Comte de Monte Cristo?
Oui, de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, sorti en juin, victime d'un complot. Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader, devenu immensément riche. Il revient sous l'identité du Comte de Monte Cristo pour se venger des trois hommes qui l'ont trahi. 9,3 millions d'entrées en France et il est deuxième au top 5. Voilà. Deuxième extrait de ce blind test 2024.
Monsieur. On veut juste...
Juste quoi? Juste quoi?
On vous demande
quoi?
Juste, s'il vous plaît.
Juste,
on voudrait juste,
plaît.
Monsieur...
Monsieur,
s'il
oui.
S'il vous plaît,
allez,
laissez-moi. Parle. On est des journalistes américains.
Tu l'as déjà dit, ça.
Ok, on bosse pour Reuters.
Reuters, ça fait pas très américain.
C'est vrai, mais c'est une agence de presse.
C'est bon, je connais Reuters.
Parfait, ok. Je veux juste vous dire...
Tu veux juste dire quoi?
Qu'on est américain, ok?
Ok. Mais quel genre d'Américain tu es? Centre-Américain, Sud-Américain,
Alors la séquence, elle fait à peu près 10 minutes, mais c'est trouvé, Manu. Guillaume.
C'est Civil War de Alexei Garland.
Oui, sorti en avril. Dans un futur proche, une équipe de journalistes voyage à travers les États-Unis au cours d'une guerre civile. Ils risquent leur vie pour continuer à informer dans un pays dont le gouvernement est devenu une dictature, tandis que des milices extrémistes commettent régulièrement des actes de violence politique. Et là, effectivement, les personnages tombent sur un charnier. Et l'homme qui parle en VF, c'est Jesse Plemons, qui joue un effroyable bonhomme. 628 000 entrées en France pour ce film. Troisième extrait.
Je dois vous avouer que 2-3 heures en plus ont été utilisées tout à fait involontairement, ce qui a causé une altération. Alors je voudrais connaître la procédure pour corriger ça.
Ce qui a été utilisé d'un côté est perdu de l'autre côté. C'est irréversible.
Non. Je ne sais vraiment pas ce qui lui a pris. Et tout porte à croire qu'elle avait trop bu.
Souvenez-vous, il n'y a ni elle, ni vous. Vous ne faites qu'une. Respectez l'équilibre et vous n'aurez plus ce genre de désagrément.
Alors, il y avait beaucoup d'indices.
Oui, il s'agit de The Substance de Coralie Farja.
Oui, qui a remporté le prix du scénario à Cannes, sorti en novembre. Une vedette d'une émission d'aérobic est virée le jour de ses 50 ans par son patron, parce qu'elle est trop âgée. Et par hasard, elle reçoit une proposition inattendue, celle d'un mystérieux laboratoire lui proposant une substance miraculeuse. Si elle se l'injecte, elle deviendra la meilleure version d'elle-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite, grâce à une modification cellulaire de son ADN. Mais rien ne se passe comme prévu. 515 000 entrées en France pour ce film. Quatrième extrait.
Ça veut dire quoi, ça? Explique-moi.
Oh, laisse-moi jeter un œil. Je vais te la faire courte. Ta fille, là, dans l'os, elle a échangé sa vie avec celle du môme. Lui, il revient, et elle est coincée là-bas pour toujours. Liée à les simples sur le Soul Train.
Le Soul Train.
Le train des âmes, destination l'au-delà de là.
Non, non, Astrid ne doit pas prendre ce train. Fais-moi entrer dans ton monde pour que je la ramène ici.
Ah, je peux te faire entrer, oui, mais ce sera pas gratos.
Ça, je m'en doutais. Tu veux quoi en échange?
Ben, il y a comme un souci avec mon ex-femme. La pauvre, elle est complètement starbée. C'est fini entre nous, seulement elle a tendance à s'accrocher. Alors s'il y avait un moyen de m'en libérer...
Tu veux que je t'épouse?
C'est chouette que ça vienne de toi.
Et qu'est-ce qui me dit que toi, tu tiendras parole?
Sur l'âme de ma chère maman, je jure. Oh, okay.
Un film que j'ai beaucoup aimé, c'est...
Beetlejuice,
il faut le dire deux fois.
Beetlejuice.
De Tim Burton, sorti en septembre. Après une terrible tragédie, la famille Dietz revient à Winter River. Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail vers l'au-delà. 1,7 million d'entrées en France pour ce film. Dernier extrait de ce Blind Test spécial 2024.
Tu sais très bien, on n'est pas pareil de ce côté-là. Toi, tu joues dans les deux camps, moi... Je suis tolérant, attention. Et si ta copine, c'est un bonhomme déguisé, je vais pas pouvoir la regarder dans les yeux. Donc, je te préviens, ça me dégoûte.
Moi. Non, mais dis pas ça. Putain, t'es con, quoi.
Je te le dis.
Oh, tu peux pas dire ça.
Pourquoi?
Parce qu'on est pas tout seul, putain. On est filmé, là.
Oui, bien sûr, merde. Pardon. Excuse-moi. Pardon, je voulais pas dire ça. Désolé. Donc, je voulais dire... Attends, je vais reformuler.
Ouais, vas-y, reformule, c'est mieux, ouais.
Donc, si jamais la femme que tu souhaites me présenter serait un homme...
Non, ça va pas. Tu conjugues mal. Si la femme était
vas-y, un homme. Bon, j'ai pas ton éducation, wow.
Vas-y.
Arrête.
Trouvé.
C'est le deuxième acte de Quentin Dupieux.
Eh oui, film de Quentin Dupieux, assez surprenant. Là, c'est l'ouverture de la séquence. Florence veut présenter David, l'homme dont elle est follement amoureuse, à son père Guillaume, mais David n'est pas attiré par Florence et souhaite s'en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Willy. Les quatre personnages se retrouvent dans un restaurant au milieu de nulle part. C'est un film très très méta de Quentin Dupieux, sorti en mai, et il a quasiment atteint les 500 000 entrées, ce qui est assez remarquable pour un Quentin Dupieux. Voilà, on referme ce blind test concernant les films de 2024 pour retrouver le dernier film qu'on doit sauver de cette année 2024 révolue.
Enfin, sauver, il y avait quand même d'autres films. Hein.
Oui.
Voilà.
Mais si on veut en sauver trois.
Comme si. Ouais. Les sauver sur une île déserte.
Voilà, c'est ça.
Moi, j'hésitais entre deux films asiatiques, un japonais et un coréen. Donc, je n'ai pas choisi Le Mal n'existe pas, mais ce sera donc In Water de Hong Sang-Flu. Voilà, que je renomme ainsi. Donc c'est Hong Kong-Soo, mais Hong Kong-Flu, du coup. Et oui, là, il a pris tout le monde par surprise, avec un vrai film flou au sens littéral, qui va transcendre son dispositif conceptuel par une émotion qui est assez incroyable. Alors, comme d'habitude chez le Coréen, tout est équivoque, faussement simpliste et minimaliste. Et je dirais que c'est peut-être son film le plus triste, qui vous hante vraiment longtemps après la projection. Et surtout, le dernier plan remet tout en perspective, tout ce que vous avez vu. en flou d'ailleurs. Et ce qui est quand même amusant, bah, moi je trouve que c'est un film incroyable, et je trouve que ce qui est amusant, c'est que vraiment, quand on va voir le film à la caisse, ils vous disent « Attention, le film est flou ». Et puis, vous avez vraiment un carton d'avertissement qui avertit comme quoi le film est flou, ce n'est pas un problème de projection. Voilà.
Voilà, moi. Donc, Aung San Suu, pour toi, Guillaume, très vite.
Et pour moi, j'hésite entre deux sagas Horizon, la saga américaine de Kevin Costner. Et ben non, j'ai préféré la saga Mad Max avec l'épisode Furiosa. Hein. Parce que, en fait, tout le monde attendait... une sorte de copier-coller de Fury Road qui a pourtant déjà 9 ans. Bah, bien sûr que George Miller a eu l'intelligence d'utiliser tout ce que le terme de préquel peut apporter à une œuvre pour en étoffer, j'ai envie de dire, la portée mythologique de sa saga. Alors, il n'y a plus du tout de Max cette fois-ci, hein, mais il y a la poursuite de ce personnage fascinant qui est Furiosa, qui permet à Miller de continuer très intelligemment sa grande œuvre en allant à l'encontre totale de la politique nostalgique nécrophile d'Hollywood depuis plus de 10 ans. Avec Furiosa, je pense que Miller il n'a jamais été aussi pulp, que ce soit dans son écriture scénaristique, visuelle dans son esthétique et ses personnages. Moi, je pense que c'est un pari absolument dingue de passer après Fury Road qui avait mis tout le monde à genoux. Miller, il y répond en faisant le film le plus métal hurlant depuis Fury Road.
Fais ce que tu dois faire. Prends le temps que ça prendra. Mais jure-moi que tu reviendras à la maison. Furiosa, fais-moi cette promesse.
Très bon choix, j'aurais pu le choisir. Et toi, Sophia ?
Moi, je termine avec un documentaire, celui de Piero Usberti, qui, donc en 2018, est allé filmer à plusieurs reprises à Gaza le quotidien de jeunes hommes et de jeunes femmes, leurs rêves de liberté, leur résistance et leurs conditions de vie, dans un film donc, qui s'appelle Voyage à Gaza. Il a filmé très humblement la multitude de violences subies par ce peuple, bloqué entre Israël et l'Égypte, donc bloqué aussi par les règles conservatrices et oppressantes du parti nationaliste du Fatah et par la faction islamiste du Hamas. Et voilà, donc il a filmé le contrôle omniprésent des drones israéliens, de l'armée, qui n'hésite pas à tirer sur journalistes, paysans, pêcheurs et autres militants pacifiques. Et ce, bien avant les attentats du 7 octobre 2023, qui ont ouvert la voie à une légitimation politique, discursive, du massacre de ce peuple. Bon, un documentaire très humain, très beau, où la résilience et l'humour du peuple filmé rend le propos d'autant plus marquant.
Eh bien, merci pour ce film. Moi, mon troisième film, j'ai choisi Les graines du figuier sauvage de Mohamed Rassoulov, qui a remporté le prix spécial du jury. On lui a rajouté un prix en plus. Alors, il se trouve que j'ai eu cette charge émotive, je l'avais déjà raconté dans l'émission, parce que j'étais présent lors de la projection de ce film à Cannes, et puis il y a eu la standing ovation, et puis voilà, il y a eu tout ça, avec ces comédiens qui n'ont pas pu quitter l'Iran. Un film tourné dans la clandestinité, et puis un film très intéressant où l'extérieur contamine un foyer. L'extérieur, c'est-à-dire la politique de l'Iran, contamine un foyer où les femmes se retrouvent à être contre le mari qui doit choisir lui entre servir le pouvoir, poursuivre une carrière vouée à commettre l'irréparable parce qu'il fait partie du tribunal islamique, ou alors il doit se ranger derrière le progrès, la réforme, la jeunesse. Alors on devine bien de quel côté il va se placer, et ce qui fait que le film se déplace vers le thriller, finalement une espèce de thriller familial. Enfin voilà, moi c'est un film que je trouve remarquable. J'avoue que j'apprécie énormément aussi le réalisateur, j'aimais encore plus le précédent film qui était Un homme intègre. Merci Manu.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Elle lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir, de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
Voilà, ainsi s'achève la première émission de l'année. On vous a donné de quoi aller glaner quelques films si vous ne les aviez pas déjà vus. On se retrouve tout bientôt pour vous parler cinéma et jouer un peu. À la semaine prochaine.
Si cette femme, donc, était un homme,
oui,
je pourrais pas, faire affaire avec elle ou lui, voilà. Tout simplement parce que mon orientation sexuelle ne me le permet malheureusement pas. Voilà, malgré tout le respect que j'ai pour ces gens, soit dit en passant, dont la différence ne pose aucun souci, bien entendu.
Très très lourd là, voilà. T'es lourd. Ok, bon, c'est pas grave,
j'ai
ça passe.
J'ai enlevé la notion de dégoût, c'est mieux.
Ouais, ben on a entendu, c'est bon. Ouais. Voilà.
Mais je te jure, je vais pas dire
vas-y,
ça, c'est vraiment sorti
tout seul. Laisse tomber, tu t'enfonces, vas-y.
Je te le dis.
Vas-y,
on continue. Et vraiment, je te promets qu'il me dégoûte pas, c'est juste moi, si tu veux, dans mon monde.
Ok.
Et je sais bien qu'on vit pas tous dans le même monde, ça c'est sûr.
Ok, ok. Ouais.
Mais dans le mien en tout cas, une femme. Elle peut pas, comment dire, avoir un appareil génital qui est externe. Ça, c'est pas possible.
Non, arrête, arrête.
Je te dis, j'arrive pas à concevoir okay. le machin dans ma tête, en fait. C'est de la science-fiction. This is Cinerama. 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 Cinerama.